Vous écoutez, on lit pour vous.
Trouver refuge à l'aéroport. Un texte de Nathalie Collard, paru le 8 mai 2025 dans la presse. Elles se fondent dans la foule de voyageurs, mais ne partiront jamais. Dans presque tous les aéroports du monde, on trouve des personnes en situation d'itinérance. À l'aéroport international Montréal-Trudeau, on a mis en place un programme pour les accompagner. Notre chroniqueuse est allée y voir de plus près. Un mercredi matin d'avril, dans l'air des départs vers les États-Unis, Kim Bouchard-Chaillé fait sa tournée. L'intervenante communautaire du YMCA balaie l'espace du regard à la recherche d'indices qui l'inciteraient à aborder une personne seule. Quelqu'un assis en retrait, par exemple, ou qui sirote le même café depuis longtemps. La jeune femme remarque des choses qui passent inaperçues aux yeux des voyageurs, souvent fébriles avant le départ. Son approche est toujours la même. « Bonjour, je m'appelle Kim. Comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous besoin de quelque chose? » Kim est employée du programme d'intervention mis sur pied par les YMCA du Québec en collaboration avec Aéroports de Montréal, ADM, et le SPVM en 2019. Projet pilote au départ, ce programme unique au Canada a été interrompu par la pandémie avant de devenir permanent en 2023. Il y avait une volonté que la situation ne se cristallise pas, que les gens ne s'installent pas dans leur petite routine, observe Stéphane Larrain, directeur opération sûreté et lutte contre les incendies, ADM. L'objectif est de faire le lien entre les personnes en situation d'itinérance et des ressources qui répondront à leurs besoins. La sécurité n'est pas de la bonne approche dans le cas de l'itinérance, ajoute Stéphane Larrain. Il faut travailler l'humain derrière la situation. Si on n'applique que de la répression et des solutions à court terme, on n'arrivera à rien de durable. Faire face aux problèmes. Montréal-Trudeau n'est pas le seul aéroport où des personnes sans adresse fixe vont se réfugier. Déjà en 2015 à Heathrow, à Londres, et LaGuardia, à New York, pour ne nommer qu'eux, témoignait de cette nouvelle réalité qui touche la grande majorité des aéroports de la planète. On y trouve aussi des gens fraîchement débarqués qui n'ont pas de ressources ou dont la situation nécessite un accompagnement d'urgence. Comme le YMCA était déjà présent à la gare d'autobus de Montréal avec son programme « Premier arrêt », on a fait appel à son expertise pour l'aéroport. En plus de soutenir les personnes itinérantes, les intervenantes communautaires du YMCA offrent des formations aux différents acteurs présents à Yule, des ambassadeurs aux commerçants, en passant par les agents de sécurité. Tout ce beau monde se rencontre une fois par semaine pour faire le point. À noter qu'un autre organisme, la société Makivik, offre un accompagnement exclusif aux Inuits qui débarquent à Montréal-Trudeau. Un lieu sûr. Kim Bouchard-Chaillé aperçoit au loin une dame assise face aux grandes baies vitrées. Près d'elle, quelques sacs d'emplettes. L'intervenante, qui la connaît depuis quelques mois, prend ses nouvelles et lui demande si elle accepterait de parler à la journaliste de la presse. « Oui, répond-elle, à condition de garder l'anonymat. » « Je suis solitaire, me confie la dame. » Je n'aime pas les refuges et les maisons d'hébergement où on est toujours à l'étroit. Il y a beaucoup trop de monde. Ici, je peux bouger comme je veux et rester dans mon coin si je le souhaite. C'est toute une série de malchances qui l'a conduite à la rue. Éviction, vol d'identité. Ici, je me sens en sécurité, m'assure-t-elle. Je viens en autobus et même en taxi des fois. Kim m'expliquera que différents intervenants accompagnent cette dame à travers les démarches requises à la suite du vol de son identité. Une clientèle en augmentation. Au cours de la dernière année, les intervenantes du YMCA ont pris contact avec environ 150 personnes, dont au moins 4 étaient âgées de plus de 75 ans. La dame avec qui j'ai parlé est assez représentative de la clientèle itinérante de Yule, qui est surtout composée de gens âgés de plus de 45 ans, en majorité des femmes. Elle se retrouve à l'aéroport. Un lieu propre, passant et sécuritaire, pour toutes sortes de raisons. Violence conjugale, éviction d'un logement, absence d'un réseau de soutien. En moyenne, on voit une dizaine de personnes par jour, note Jade Otis, assistante coordonnatrice travail de milieu au YMCA du Québec. Les matins et l'hiver sont plus occupés. Plusieurs quittent tôt et reviennent le soir, tout dépendant de la saison. L'aéroport n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il faut débourser 22 $ pour l'aller-retour avec l'autobus 747 de la STM. Malgré cela, le nombre de personnes augmente au fil des ans. Pour certaines personnes, il s'agit d'un investissement dans la perception de leur sécurité, avance Isabelle Gervais, conseillère principale prévention de l'exclusion au YMCA du Québec. L'arrivée du REM, un jour, pourrait changer la donne en rendant l'accès à l'aéroport plus facile, une éventualité dont tout le monde est conscient. C'est un défi auquel on se prépare, reconnaît M. Larrain. Le REM sera un lien direct avec le centre-ville et il faudra voir comment on arrime notre programme à cette nouvelle réalité. Un changement de perception. Le travail des intervenantes du YMCA a permis aux autres entités présentes à l'aéroport de considérer l'itinérance autrement. En tant que policier, on est habitué d'intervenir dans l'urgence, me fait remarquer Annie-Claude Pelletier, coordonnatrice locale en police communautaire à la Sûreté du Québec, qui a pris le relais du SPVM à Montréal-Trudeau en janvier dernier. Les intervenantes nous ont montré comment prendre notre temps et établir un lien de confiance. Même son cloche de la part de Stéphane Larrain, qui, avant d'être à l'emploi d'ADM, a passé 30 ans à la Sûreté du Québec. Derrière chaque histoire, il y a une enfance, une famille, puis une succession de bad luck et de mauvaises décisions, rappelle-t-il. J'étais plutôt rigide avant. Les intervenantes du YMCA ont contribué à me faire voir que, derrière chaque histoire, il y a un potentiel, une chance de se remettre sur les rails. Je le dis à mes équipes, vous êtes là pour surveiller, mais aussi pour prendre soin du monde. Le programme, financé entièrement par ADM, existe depuis environ 2 ans et déjà, il a connu de beaux succès. Comme cet homme dans la trentaine qui fréquentait l'aéroport depuis bien avant la pandémie. On a réussi à établir un lien de confiance alors qu'au début, il était très récalcitrant, raconte Isabelle Gervais du YMCA. On l'a mis en lien avec d'autres intervenants. On a pu lui trouver des ressources en santé mentale, développer un plan de médication. C'était une intervention de longue haleine et aujourd'hui, il est en logement autonome et il a renoué avec sa famille. Une histoire qui finit bien et dont je me souviendrai la prochaine fois que je prendrai l'avion. Pour certains, l'aéroport est bien plus que le lieu de départ vers de nouvelles aventures. C'est parfois le prélude à une nouvelle vie. C'était « Trouver refuge à l'aéroport », un texte de Nathalie Collard paru le 8 mai 2025 dans La Presse.
La rue Hochelaga, une fracture urbaine à réparer. Un texte de Marco Fortier paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir. La rue Hochelaga, dans l'est de Montréal, a des allures d'autoroute avec ses 3 voies dans chaque direction. Cette artère est qualifiée de dangereuse, En tout juste 6 ans, pas moins de 1128 collisions impliquant des véhicules motorisés sont survenues sur une distance de 6,5 km. Bilan, 3 personnes sont mortes, 15 ont été blessées gravement et 333 ont subi des blessures légères entre les années 2015 et 2021. Ces accidents ont surtout eu lieu aux intersections, lors de virages à gauche ou à droite, en voiture ou en camion. Les victimes se déplaçaient principalement à pied ou à vélo. L'administration de Valérie Plante a ainsi entrepris de sécuriser cette artère névralgique qui relie les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve entre la rue Folhomme et l'autoroute 25. Une voie de circulation sera retirée dans chaque direction pour aménager des pistes cyclables unidirectionnelles séparées de la chaussée. Fait à noter, 70% des cases de stationnement sur rue seront conservées, à la demande des gens du quartier. Après le chantier en 4 phases, qui doit commencer en mai 2025, il restera dans chaque direction une voie de circulation motorisée, une voie de stationnement pour les voitures et une voie pour les vélos. On reçoit depuis des années des demandes d'apaisement de la rue Hochelaga, a expliqué Sophie Mauzerolle, élue responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, lors d'une récente assemblée d'information. Cette rue est dangereuse, a souligné Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il a décrit 2 des artères principales du quartier, Hochelaga et Sherbrooke, comme des autoroutes urbaines. François Godefroy, chef de division au service de l'urbanisme et de la mobilité, a parlé d'une fracture urbaine. Signe de l'intérêt pour la sécurisation du secteur, 110 citoyens ont participé à la séance d'information qui s'est tenue en ligne le mercredi 23 avril 2025. 2 élus et 10 aines de représentants de l'administration municipale, ingénieurs, chargés de projet, etc., ont répondu aux questions du public. Les résidents du quartier ont accueilli positivement le réaménagement proposé de l'artère achalandée où les véhicules roulent vite. Les parents craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants qui se rendent à l'école, à la garderie, au parc ou à l'une des 2 stations de métro situées le long du boulevard. En retirant une voie de chaussée dans chaque direction, la circulation sera apaisée, ont souligné les représentants de la ville. La limite de vitesse passera de 50 km/h à 30 km/h. Des îlots refuges et des saillies de trottoirs seront aménagés pour les piétons. La chaussée à traverser sera plus étroite pour les gens qui se déplacent à pied. Des inquiétudes. Comme c'est souvent le cas lors de transformations importantes de rues accidentogènes, les riverains s'inquiètent de voir disparaître des voies de circulation ou des cases de stationnement. Louise Brazeau, résidente du secteur, a demandé pourquoi la ville ajoute une piste cyclable est-ouest, tandis qu'il existe déjà d'autres liens pour les vélos, sur les rues Notre-Dame, de Rouen et Rachel, notamment. Il s'agit d'abord d'une question de sécurité, ont expliqué les représentants de la ville. La rue Hochelaga est propice aux collisions. Les principales victimes des collisions mortelles ou graves sont des piétons ou des cyclistes, selon les chiffres de la ville. De plus, les autres liens cyclables sont éloignés de la rue Hochelaga, où les besoins en transport actif et collectif sont immenses. La ville a calculé que 375 000 personnes vivent à 10 minutes à vélo de cette artère très achalandée. Et cette rue offre un lien ininterrompu de près de 10 km, ce qui est susceptible de mener à l'adoption du vélo par un nombre important de personnes, comme sur la rue Saint-Denis, où plus d'1 million de passages de cyclistes ont été enregistrés en 2024 sur le réseau express Vélo, REV. Une autre citoyenne, Caroline Dufour, a demandé si la ville compte adopter un règlement obligeant les cyclistes à rouler sur la piste cyclable. « La ville n'a pas ce pouvoir », a expliqué le maire d'arrondissement Pierre Lessard-Blais. « Le Code de la sécurité routière autorise les cyclistes à rouler sur n'importe quelle artère, sauf sur les autoroutes. De toute façon, les cyclistes n'ont rien à gagner à rouler dans la rue ou sur le trottoir quand ils ont accès à une piste cyclable séparée de la chaussée. C'était la rue Hochelaga, une fracture urbaine à réparer. Un texte de Marco Fortier paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir.
Des livres où les mères sont en vedette. 5 suggestions de lecture de Karine Wilder, paru dans Bel Âge. Mai étant le mois de la fête des mères, on a eu envie de proposer 5 romans qui donnent le beau rôle aux mamans. 1. Entre toutes les mères, par Ashley Audrin, édition Le Livre de poche. Parce qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir une bonne mère, Blight s'est promis une chose, offrir à sa fille tout l'amour possible. Mais dès que sa petite Violette viendra au monde, elle devra se rendre à l'évidence. Chaque bébé est différent et le sien semble l'inviter à ne donner que le pire d'elle-même. Abordant un aspect de la maternité dont on entend peu parler, ce thriller nous a scotchés. 2. La nuit chienne, par Rachel Yoder, édition Flammarion. Pour pouvoir s'occuper de son bébé, une femme a renoncé au boulot qu'elle adorait, à ses nuits réparatrices, à ses rêves. Elle n'est plus que fatigue et solitude. D'ailleurs, plutôt que de reprendre peu à peu du poil de la bête, elle a l'impression de se transformer en chien. Pleine de mordants, une histoire déroutante à souhait. 3. Une mère, par Alejandro Palomas, édition Pocket. Envie de rigoler un bon coup? Si oui, place à Amalia, une Barcelonaise à moitié aveugle dont tous les enfants ont accepté de venir manger chez elle le soir de la Saint-Sylvestre. Et le souper sera mémorable parce que chacun d'eux finira par se vider le cœur sans mâcher ses mots. Une savoureuse comédie familiale comme il s'en écrit trop peu. 4. Le roman de ma mère, par Lucette Larouche, édition Québec-Amérique. Chose sûre, Evelyne ne l'a pas eu facile. Travaux à la ferme, grossesse à répétition, tripotée d'enfants, mari porté sur la boisson, manque de sous. Une vie qu'elle acceptera de raconter à sa fille Odile et qui, une fois encore, nous montrera à quel point les Québécoises ont dû se battre pour être où elles en sont aujourd'hui. 5. La promesse de l'aube. Romain Gary, édition Folio. Dans la littérature, il y a une mère qui se démarque de toutes les autres. Celle de l'écrivain français Romain Gary. Différente, extravagante, courageuse, débrouillarde et déterminée, elle a tout fait, tout dit pour que son fils devienne un jour un grand homme. Un petit chef-d'œuvre à lire ou à relire. C'était Des livres où les mères sont en vedette. Un texte de Karine Wilder, paru dans Bel Âge.
ACVMTL, un an d'existence pour l'Association citoyenne du village de Montréal. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la toute première assemblée de cette nouvelle association il y a un an. Sa création avait été souhaitée lors du Forum du village en septembre 2022. Puis, un nouveau sondage faisant partie de la stratégie pour le village, il y a maintenant 2 ans, démontrait que les citoyens étaient favorables à un tel regroupement pour ensuite aboutir, l'an dernier, à la mise sur pied de celui-ci. Mais ce ne sont pas des banalités qui attendaient le comité de coordination de cette association. Sentiment de sécurité, incivilité, toxicomanie, propreté, itinérance, etc. Avec courage, les 8 membres du comité de coordination se sont donc attelés à la tâche pour multiplier les rencontres avec d'autres groupes et créer des ponts afin d'envisager des solutions. Une des grandes actions remarquées par l'ACVMTL fut certainement le sondage sur le sentiment de sécurité auprès des résidentes et résidents du secteur à l'automne dernier et dont les résultats en ont pris plusieurs par surprise pour leur acuité. Chose extraordinaire pour une telle consultation, plus de 700 personnes y ont participé, signe de l'inquiétude des gens. Ainsi, 68,2% des répondantes et répondants trouvaient que le village était peu ou pas sécuritaire. Cela donne à réfléchir. Dans le fugue de mai dernier, le conseiller municipal Robert Baudry, membre du comité exécutif, révélait en entrevue ses intentions de briguer un troisième mandat aux élections de novembre prochain. M. Baudry parle de la SDC du village et de notre association comme des canaux de communication. C'est important pour moi. Ça veut dire qu'il nous reconnaît et reconnaît tout le travail que nous faisons, de souligner Sylvain Côté, président et membre du comité de coordination de cet organisme. Oui, comme il le mentionne, on va reprendre la fête de quartier. Je crois que c'est une belle activité rassembleuse pour tout le monde. Ce qui me préoccupe et m'inquiète, c'est la fusion des PDQ, postes de quartier, 21 et 22 du SPVM, service de police de la ville de Montréal. Qu'est-ce que ça va amener, cette fusion? Quel est le budget supplémentaire alloué à la police? M. Baudry parle du projet pilote de cette agence de sécurité privée. S'il y a un rapport, on aimerait voir les résultats, qu'il y ait plus de transparence. Au PDQ 22, nous avions un comité consultatif qui réunissait la police, la SDC du village, des groupes communautaires, les citoyens, etc. Est-ce que cela tient toujours avec la fusion? Nous avons plusieurs questions. La ville de Montréal est un gouvernement de proximité. M. Robert Baudry peut-il prétendre connaître les problèmes des résidentes et résidents de l'arrondissement alors qu'il n'habite pas le quartier qu'il représente? Il est très loin de nos problèmes au quotidien, commente pour sa part Daniel Matt, attaché de presse de l'ACVMTL et membre du comité de coordination. Des heures incalculables de bénévolat en rencontres multiples. Il n'est pas aisé de comprendre l'écosystème du quartier et de saisir toutes les problématiques ainsi que les enjeux. Parfois, il faut prendre le taureau par les cornes. En tant que bénévole, c'est impressionnant parce que c'est beaucoup de travail que nous accomplissons, avoue Sylvain Côté, qui additionne les réunions. La veille de l'entrevue, ce dernier était allé rencontrer certains responsables du CIUS, cette grosse machine de la santé et des services sociaux qui a été blâmée pour la débâcle, entre autres, dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, lors de la pandémie de COVID-19. Nous avons rencontré des gens du CIUS puisque ce sont eux qui ont rapport avec les services en toxicomanie, maladie mentale, itinérance, désintoxication, etc., poursuit Sylvain Côté. On a été plaidé qu'on ne peut plus continuer à faire les choses de la même manière. Sinon, on va aboutir aux mêmes résultats qu'on constate maintenant dans nos rues. Quelques jours auparavant, plusieurs membres du comité de coordination prenaient part à une corvée de nettoyage dans le quartier. Un constat s'est fait presque sur le champ avec la Brigade des Alliés du village, créée par la SDC du village, la Brigade de la propreté de la ville, ainsi que les différentes équipes comme Tapage, équipe de propreté sous la responsabilité de Spectre de rue, etc. Le domaine public était passablement propre. Par contre, c'est le domaine privé qui inquiétait. Avec des déchets, avec des éléments de compostage, avec des items de récupération, recyclage, parfois on voyait des gens qui avaient mis du recyclage alors que ce n'était pas la journée de la collecte. On voyait qu'il y avait un problème là, de souligner Sylvain Côté. On sait que la propreté aide à renforcer le sentiment de sécurité. On a rencontré les divers intervenants, mais maintenant on songe à comment aborder le domaine du privé pour garantir une meilleure propreté aux citoyens. On doit aussi travailler avec les autres regroupements de résidentes et résidents ailleurs dans l'arrondissement pour pouvoir faire avancer les dossiers, rajoute Daniel Matt. Une fête de quartier renouvelée. Ceux et celles qui se souviennent de la fête de quartier antérieure étaient auparavant organisées par Mme Lise Bélan avec tant de cœur et de passion, eh bien cette fête nous revient. Oui, il y aura une nouvelle fête de quartier grâce au FIL, Fonds d'initiative locale, qui a fourni un budget pour cette activité. Elle aura lieu le samedi 6 septembre à la place du village face au cabaret Mado. Nous avons eu du soutien financier de l'arrondissement ainsi que la collaboration de plusieurs services pour la tenue de cette fête. Nous avons aussi l'appui de la SDC du village. La formule reste à être fignolée. On travaille avec le studio ZX pour de l'animation en soirée, nous dit Sylvain Côté. Il y aura peut-être aussi de la bouffe, comme l'ancienne fête de quartier, mais cela doit être confirmé. Les défis à venir. Pour moi, le plus grand défi, c'est la diversité et la mixité qu'il y a dans le secteur et comment être représentatif de toute la population du village, ajoute Sylvain Côté. Il semble que depuis l'Assemblée de fondation l'an dernier, les gens ont beaucoup d'attentes envers le rôle de notre association. Nous sommes tous des bénévoles en ce moment. On a besoin de soutien, peut-être pour du personnel. Donc, un meilleur budget, cela veut dire aller chercher des subventions pour soutenir l'association, poursuit Sylvain Côté. Ça, c'est un autre défi aussi que de consolider l'association dans l'avenir. Idéalement, ce serait un budget qui comprend à la fois du public et du privé pour mieux accomplir notre mission de renchérir Daniel Matt pour qui l'indépendance de l'ACVMTL demeure néanmoins capitale. Info, site web acvmtl.ca. C'était ACVMTL, un an d'existence pour l'Association citoyenne du village de Montréal. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue.